Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Oui, non, pas pire. Les hauts et les bas. Des journées sont bonnes, d'autres moins bonnes. Mais c'est bon de pouvoir commencer encore une fois. J'aime ça répéter ça. On commence la semaine avec un temps en église, un temps ensemble pour plonger les regards dans la parole de Dieu, prendre du temps avec notre Dieu en Église. Et pour commencer, j'aimerais vous inviter à tourner dans le psaume 46. Le psaume 46. Psaume 46, je vais lire à partir du verset, du deuxième verset. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Depuis le début de ce cours, on regarde ensemble comment on peut grandir dans notre amour, notre passion pour Dieu, comme les outils que Dieu a mis à notre disposition pour qu'on puisse développer une intimité avec notre Dieu, grandir dans notre affection pour Dieu, les choses que Dieu affectionne. Et lorsqu'on regarde ce psaume, une des choses qui ressort et qui est comme un refrain dans ce psaume, c'est le verset 8 et le verset 12 le répètent, c'est que Dieu est pour nous un refuge. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et lorsqu'on pense à notre relation avec Dieu, ce qui est souvent bon de se rappeler, c'est que lorsque la terre est ébranlée, lorsque le monde politique semble instable, lorsque même les catastrophes arrivent, le psaume nous dit, Dieu est pour nous un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et il peut arriver n'importe quoi. Dieu peut permettre n'importe quoi. Et Dieu sera toujours pour nous un refuge et un secours qui ne va jamais manquer. Et des fois, c'est difficile de le vivre. On veut, des fois, par nos propres moyens, essayer de régler nos problèmes, essayer de régler nos situations difficiles. Mais je pense qu'avec ce qu'on a vu la semaine dernière dans la prière, avec la leçon sur la prière, Dieu est pour nous un bon Père vers qui on peut se tourner, qui prend soin de nous. Et ce matin, on veut poursuivre dans cette discipline spirituelle avec un peu l'explication de ce qu'est les temps de silence et solitude, des retraites qu'on peut faire et avec le jeûne. Et juste avant de poursuivre dans la leçon, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter, reconnaître que Dieu est là, reconnaître que Dieu règne maintenant. On veut qu'il règne dans nos vies et on veut lui consacrer nos cœurs ce matin afin qu'il puisse parler, nous parler et qu'on puisse vivre pour lui. On va se courber ensemble. Seigneur notre Dieu, tu nous dis dans ce psaume, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et Seigneur, c'est en silence qu'on veut venir devant toi, avec des cœurs calme et prêt à t'entendre, Seigneur, malgré tous les tracas, les soucis que nous pouvons amener avec nous ici ce matin. Seigneur, on veut prendre ce temps pour s'arrêter et déposer tout ce qu'on peut vivre, les situations qui peuvent être difficiles pour nous, et les déposer à tes pieds, Seigneur, et trouver notre refuge en toi. Seigneur, combien tu es bon pour nous. On voit dans les psaumes combien de fois les psalmistes ou le psalmiste vont vivre des situations désolantes. Ils vont avoir même des psaumes de lamentation, d'imprécation. Et tu es toujours celui qui répond à la prière, qui vient nous délivrer. Et Seigneur, on veut te remercier parce que tu aurais pu nous détruire, tu aurais pu nous exterminer à cause de nos péchés. Mais dans ta grâce, tu as tout déployé pour que tu puisses être notre Dieu, qu'on puisse se tourner vers toi et se réfugier en toi pour être délivré de nos péchés, délivré de notre détresse spirituelle. Et Seigneur, je veux te remercier ce matin spécialement pour tout ce que tu as accompli pour nous en Jésus-Christ et qui nous permet maintenant d'entrer dans ta présence, de venir dans ta présence et de se reposer en toi. Aide-nous, Seigneur, aide-moi. Combien j'ai besoin, Seigneur, d'apprendre à me reposer en toi, d'apprendre à dépendre de toi dans tout ce qu'il y a à faire, en dirigeant un couple, une famille, une église, Seigneur, le ministère qu'on fait pour toi. J'ai besoin d'apprendre à me reposer en toi en toutes choses. Parce que ce n'est pas par mes propres forces, Seigneur, mais c'est par toi qu'on veut agir pour ta gloire. C'est pour toi qu'on a été rachetés, c'est pour célébrer ta gloire, pour célébrer la gloire de ta grâce. Aide-nous, Seigneur, à vivre pour toi, à vivre pour ta gloire. Et ce matin, aide-nous à réfléchir sur l'utilisation de notre temps, afin qu'on puisse être des hommes et des femmes qui prennent du temps, qui s'arrêtent et qui apprennent de toi pour vivre pour ta gloire. Seigneur, c'est dans le beau et précieux nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Donc, on arrive maintenant à un temps, la leçon sur les temps de silence et solitude. Ça poursuit là où on en est rendu. Et puis, on va expliquer un peu plus comment on caractérise les temps de silence et solitude. Qu'est-ce que c'est exactement et comment on peut vivre ça? On entend souvent les gens dire dans notre société, et notre société nous influence énormément sur la gestion de notre temps. Que ce soit par la productivité depuis, je dirais, la révolution industrielle de la fin du 19e siècle, et depuis même toute la technologie nous impose à aller davantage, toujours plus rapidement. Je reçois un courriel, la personne s'attend que dans la journée même, elle puisse recevoir une réponse. Avant, on s'envoyait des lettres. On attendait plusieurs jours avant que la personne le reçoive, plusieurs jours avant qu'on reçoive une réponse. Et puis, on vivait bien avec ça. Mais aujourd'hui, c'est rapide, toujours. Notre horaire est rempli, notre boîte de courriel se remplit. On a besoin de répondre rapidement. On a besoin d'être productif. Et en plus de ça, le monde aujourd'hui, avec les technologies, nous propose une multitude de divertissements qui font que notre horaire, notre utilisation du temps se remplit avec le travail, le divertissement. Et c'est des fois un piège pour nous. Lorsqu'on est fatigué de notre journée de travail, d'aller se réfugier dans le divertissement que le monde nous propose. Je suis fatigué, j'ai eu une grosse journée de travail, j'ai travaillé 8, 9, 10 heures, j'arrive, j'ai juste envie de m'asseoir dans le divan, ouvrir la télé, puis comme, là je relaxe, j'écoute une game de hockey, une game de baseball, ou un téléroman, puis rendu à 10h, 10h30, 11h après les nouvelles, on va se coucher. C'est vrai? Hein? Le monde nous influence sur l'utilisation de notre temps. Mais dans notre désir de poursuivre les affections spirituelles, dans le but de glorifier Dieu, on doit prendre le temps de s'arrêter à un moment donné et analyser tout ça, là. Prendre un recul. Et des fois, on est tellement impliqué dans toutes les activités de notre vie qu'on ne prend pas le temps de faire un pas en arrière et juste comme dire, qu'est-ce qui a utilisé, comment mon temps a été utilisé ces derniers jours, ces dernières semaines, pour dire, où était le temps avec Dieu là-dedans? Où est-ce que j'ai consacré du temps pour grandir dans ma relation avec Dieu? Grandir pour apprendre de lui, pour le glorifier. Et souvent, malheureusement, on réalise que, ouf, c'est passé tellement vite, puis on n'a pas eu du temps avec le Seigneur. Fait que dans les dernières semaines, on a considéré les disciplines, les moyens dans lesquels on veut grandir dans notre relation avec Dieu. On a parlé de la lecture de la parole, de la méditation, de la mémorisation, de l'étude de la parole. On a parlé de la prière, de prendre des temps avec Dieu dans la prière pour dépendre de lui. Mais dans cette leçon, on va se concentrer sur une discipline que peu de chrétiens, ou deux disciplines que peu de chrétiens vont pratiquer. Ce sont les temps de silence et solitude et le jeûne. Et le jeûne, même pour moi-même, lorsque je lis cette leçon-là, je me dis, mon ami, je ne prends même pas le temps de consacrer du temps à Dieu dans le jeûne, la prière. La dernière fois que j'ai jeûné, ça fait combien de temps? J'ai de la misère à mettre le doigt dessus. Et donc, je pense, on va expliquer ce que c'est. Ce n'est pas une loi d'être obligé de jeûner, mais on va expliquer qu'est-ce que c'est bibliquement. Qu'est-ce que c'est le jeûne et comment on peut le pratiquer? Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que ça signifie dans notre relation avec Dieu? Mais pour commencer, on va parler des temps de silence et solitude. On va définir qu'est-ce que c'est, les temps de silence et solitude. Et peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler de ce genre de discipline-là. On entend souvent la lecture de la parole de Dieu, la louange, la prière, la communion fraternelle, mais temps de silence et solitude. Qu'est-ce que c'est ça exactement? Donc, on va juste définir ensemble la discipline du silence et la discipline de la solitude, parce qu'on combine deux mots ensemble ici, mais je pense qu'on regroupe ensemble une seule discipline. La discipline du silence, c'est l'abstinence temporaire et volontaire de conversations et d'autres bruits dans le but de poursuivre des objectifs spirituels. Et je pourrais dire même l'abstinence de mon ordinateur, mon téléphone portable qui a les courriels qui font boum, 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 qui est quand ça rentre, et des notifications Facebook, des messages textes. On pourrait dire de mettre le cellulaire ou les appareils en mode avion. OK? Il n'y a rien qui rentre. Donc, l'idée, c'est de faire silence. C'est-à-dire, je me détache de tout ce qui pourrait venir déranger et je vais être dans un temps de silence pour lire, méditer, prier, louer Dieu ou même écrire. On va voir plus loin une discipline qu'on parle du journal, de noter les choses que Dieu fait dans nos vies. Et puis, ça peut être le temps de silence peut être utilisé pour ça. L'autre discipline, c'est la discipline de la solitude. Ça, en plus d'être en silence, en fait, ce qu'on cherche, c'est d'être retiré temporairement ou volontairement en privé dans un but spirituel. Ça peut être quelques minutes, ça peut être quelques heures ou même quelques jours. Vous entendez souvent notre pasteur Yannick parler de ses retraites, là, quand il va avec ses amis, ses collègues dans le ministère, François Turcotte et Stéphane Gagné. Ils prennent un temps deux fois par année, partent 48 heures dans un chalet éloigné où ils vont prendre du temps spécialement avec le Seigneur en silence, mais aussi une certaine forme de, j'allais dire redevabilité, mais j'ai entendu dire cette semaine que c'est même pas un mot en français. On l'invente des mots, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Il faudrait ajouter ça au dictionnaire. Redevabilité, je trouve que c'est un bon mot. Mais apparemment que c'est reddition de compte. C'est comme, oups, c'est bizarre ce mot-là. Mais redevabilité, une certaine forme de redevabilité avec des frères dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'écart. Ils vont un temps seul, en silence. Et donc, on a l'habitude de considérer la discipline de silence et solitude comme une seule. Pas les deux séparés, mais ensemble. Puis la raison pourquoi souvent on recherche la solitude, c'est parce qu'on veut être en silence, avoir un temps personnel avec Dieu où on va consacrer un temps plus profond avec le Seigneur et ça peut difficilement se faire quand il y a du bruit autour de nous. On a besoin de se retirer, être à l'écart. On veut obtenir du silence. Et le silence et la solitude sont complémentaires à la communion fraternelle. Et ça, je veux faire un point ici, c'est que souvent, on peut avoir une perception, souvent avec les différentes mouvement de piétisme qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église. À un certain moment donné, je ne me souviens plus qui était l'initiateur de ce mouvement-là, mais le mouvement monastique du 3e, 4e siècle, c'était on se retire dans les déserts, puis on passe du temps seul avec Dieu, mais en se retirant complètement du monde, sans être dans le monde. Mais je pense que c'est bien de se retirer à l'écart, mais en même temps, le Seigneur ne nous appelle pas à vivre une vie, simplement une relation avec Dieu, mais il nous appelle à être dans le monde pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. Donc, on veut avoir l'équilibre. On veut dire, on veut prendre du temps seul avec Dieu, mais en même temps, on doit vivre notre vie avec Dieu, avec des frères et sœurs et en communion fraternelle. Donc, on cherche un équilibre. Maintenant, pourquoi il est important de poursuivre d'avoir le fait d'avoir des temps de silence et solitude bibliquement? Bibliquement, on voit que Jésus lui-même avait des temps de silence et solitude. Dans Marc 1, 35, l'évangéliste nous dit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Jésus lui-même, le Fils de Dieu, c'est lui qui avait les pouvoirs extraordinaires, tous les pouvoirs, l'autorité sur la nature, avait besoin de prendre du temps avec le Père, à l'écart. Alors, il prenait du temps, spécialement au début de la journée, à ce cas-ci. Il se levait de très tôt le matin pour aller dans un lieu désert où il a prié. Dans Luc 4, 42, la même chose. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte point. Donc, Jésus, des fois, avait besoin de sauver des gens. Des fois, je me retrouve un peu là-dedans. Des fois, on est à l'église, on travaille la semaine, on a des réunions toute la semaine, on se rencontre le dimanche. Des fois, il y en a qui carburent aux relations. Okay? Il y en a qui, c'est comme, ils trouvent de l'énergie à être en relation. Les extrovertis, souvent, sont comme ça. Ça leur prend du monde autour d'eux, puis ça énergise. Moi, c'est le contraire. Moi, ça me vide complètement. Là, je vais être brûlé tantôt à midi. Là. Et le dimanche après-midi, j'arrive chez nous et boum, je suis vidé. Ma personnalité est comme ça, un peu plus timide. Les relations, pas nécessairement faciles pour moi, mais même si j'aime beaucoup les gens. Mais moi, des fois, j'ai besoin de. Il me semble que j'ai besoin d'être un petit peu à l'écart, là. Prendre du temps avec Dieu, me ressourcer, puis après ça, « OK, Seigneur, tu me fortifies, là, je suis prêt à y aller encore. » Puis c'est ça. Fait que hier, j'avais une réunion avec l'équipe de louange, puis waouh, j'ai été surpris, parce qu'on a des réunions comme ça, avec toute l'équipe de louange, on se réunit au moins deux fois par année, un samedi matin, on déjeune ensemble, et puis on prend du temps pour discuter des choses du ministère, des choses dans lesquelles on veut grandir spirituellement pour être contagieux envers l'Église, dans la louange, et des choses qu'on a à travailler. Puis hier, j'étais impressionné. Wow, le Seigneur a ajouté dans les dernières années, on était presque une trentaine hier réunis. On ne le voit pas le dimanche, on a 5-6 en avant, 6-7. Mais il y a toute une équipe qui dirige ça. Puis honnêtement, des fois, c'est des réunions comme ça, très larges. Il peut y avoir des choses qui ressortent, puis des fois négatives, puis on essaie de gérer ça pour que ça soit le plus édifiant possible. Puis je vous partage mon cœur. Des fois, ça c'est lourd. Là. Je prie Dieu. J'ai besoin, Seigneur, que ça se passe bien. Là. Je veux pas que ça tourne mal. Je veux être qu'on soit édifiant. Je veux qu'on grandisse ensemble pour ta gloire. C'est ça que je désire. Et puis, après, juste pour me préparer pour ça, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de m'appuyer sur toi, j'ai besoin de toi pour accomplir ça. Et puis, j'ai pris du temps hier matin pour prier, puis prier la grâce de Dieu pour cette rencontre-là, puis ça a bien été, hein? Il y en a, c'est bon, hein? C'est bon. Le Seigneur nous a édifiés ensemble, Serge est d'accord, Charles est d'accord, Dominique est d'accord aussi. Oui. Mais c'est ça, on était ensemble, puis on a eu un bon temps, c'était édifiant. Puis je rends gloire à Dieu pour ça, parce qu'on grandit. Mais pour moi, là, accomplir ça, c'est une montagne. C'est comme si c'est une montagne. À toutes les fois, c'est comme une montagne Quand Yannick n'était pas là pendant 11 semaines, la montagne, là, je vais prêcher une semaine après l'autre. Tous les dimanches, pour moi, ça me demande toute mon énergie. Qu'est-ce que j'ai besoin? De me ressourcer en Dieu puis de prendre du temps à part. Sinon, ça ne sera pas possible. C'est impossible. Et je pense qu'on a tous besoin, quand même qu'on est bon dans les relations, que le Seigneur nous a donné certains talents, on a besoin de se ressourcer en lui quand on est en train de faire son œuvre, lorsqu'on cherche à le glorifier. Et Jésus, qui avait tous les pouvoirs dans son ministère, est allé à l'écart. Et combien j'ai besoin d'apprendre de Jésus? De juste s'arrêter puis dire, j'ai besoin de me confier à mon Père céleste pour accomplir le ministère. Et donc, là, je parle du ministère dans mon cas, mais vous êtes dans le ministère aussi. Hein? Au milieu de travail, des fois, les relations ne sont pas faciles. Comment je vais manifester l'Évangile dans mes relations quand c'est difficile? Stéphane nous a parlé un moment donné des relations difficiles à son travail. Il nous a partagé comment des fois il y avait des luttes. C'est pas évident. On est dans le ministère, là. On est en train de chercher à glorifier Dieu dans nos relations. Quand je vis une situation, des relations difficiles, des fois, pas juste des fois, on a besoin de se ressourcer en Dieu parce qu'on est en train de chercher à glorifier Dieu dans tous les domaines. Donc, on a besoin de dépendre de Dieu. Une autre raison pour laquelle on a besoin d'avoir ces temps de silence et solitude, c'est parce qu'on a besoin d'être davantage à l'écoute de Dieu. Et on a parlé de ça à travers la leçon sur la parole de Dieu. Le psaume 46, 10, comme on l'a lu tout à l'heure, Seigneur, il nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Des fois, ça peut être juste une minute, mais des fois, on a besoin de plusieurs heures, quelques jours même, pour s'arrêter et dire « Seigneur, tu es Dieu, tu es maître de ma vie, je veux chercher à faire ta volonté. » Donc, on veut prendre du temps et s'arrêter. Donc, comme je disais, les situations de la vie sont occupées, bruyantes, on a besoin de se retirer à l'écart et s'arrêter et dire « Seigneur, je roule comme un, on va dire comme ça, comme un fou toute la semaine. » L'horreur est remplie, mais j'ai besoin de m'arrêter pour me confier en toi, pour apprendre à chercher ta volonté. Donc, être davantage à l'écoute de Dieu à travers la lecture de sa parole, souvent dans les temps de silence et solitude, on va combiner d'autres disciplines spirituelles à ces temps-là. On ne s'en va pas juste comme en silence, puis arrêter, puis sans rien faire. Là. On s'en va chercher la face de Dieu dans sa parole, on s'en va prier, on veut mettre du temps à part pour être en relation avec Dieu. Donc, parce qu'il y en a des fois, c'est dans notre société aujourd'hui, la spiritualité peut être ça, surtout avec le nouvel âge, là, faire le vide. Hein? On entend ça, il faut faire le vide. Ou avoir des pensées positives. Ben, les pensées positives, c'est la parole de Dieu qui m'est donne, hein? Parce que je peux m'appuyer sur Dieu. Ça, c'est une pensée positive, pas juste, mais c'est une action positive, de me confier en Dieu pour ce que je suis en train de vivre. Je ne veux pas faire le vide. On va chanter tout à l'heure un chant. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. La pensée positive, là, on devrait remplacer ça par je laisse à tes pieds mes fardeaux. Venir aux pieds du Seigneur Jésus et dire je dépose à tes pieds les fardeaux que j'ai, les troubles, tout ce qui m'inquiète. Je veux m'arrêter et déposer ça à tes pieds. Puis me confier dans ta parole qui me dit tu es avec moi et que tu vas m'accompagner dans tout ça. Donc, on veut être à l'écoute de Dieu, mais à travers sa parole. On veut aussi exprimer notre foi en Dieu à travers ces temps de silence et de solitude. Dans Ésaïe 30:15, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Et ça, c'est Israël. Israël n'a pas voulu être en relation avec Dieu. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Comme j'expliquais tout à l'heure avec le ministère, ou des fois les défis que le Seigneur met devant moi, c'est dans le calme et la confiance que va être ma force. Et donc, comment les silences et solitudes sont... C'est quoi le lien entre le temps de silence et solitude et la foi? Si je vous lance là. C'est comment on peut mettre ça ensemble? Dire, le temps de silence et de solitude, c'est une façon d'exprimer ma foi. Je vous lance la question. Oui, vas-y Camille. OK. Oui, oui. OK. Donc, d'être agité dans notre cœur, les pensées et l'inquiétude qui sont là, c'est une manifestation d'un manque de foi. Et donc, lorsque je m'arrête pour être avec Dieu, c'est plutôt, je suis en train de dire justement, je veux placer ma foi en toi pour les moments difficiles ou les choses qui me tracassent et m'appuyer sur toi. Et donc, lorsque je m'en vais à l'écart, puis je m'en vais déposer au pied du Seigneur mes fardeaux, je suis en train d'exprimer ma foi en lui. Que ce n'est pas par mes propres forces que je vais réussir à vivre ce qui est devant moi, les défis qui sont devant moi, mais plutôt en m'appuyant sur lui. Dans le calme et la confiance que sera votre force. Et souvent, là, dans le calme, la confiance, dans le calme, à travers la lecture de la parole, l'Esprit nous restaure, l'Esprit nous vivifie, nous fait voir les situations d'un autre œil. On peut critiquer les situations, là, des fois, c'est comme ça ne marche pas. On s'arrête, puis on se rend compte, Seigneur, tu dis que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi tu permets ça? Peut-être parce que j'ai besoin de grandir dans ma foi en toi. Et là, je prends ce temps pour s'arrêter et dire, Seigneur, je ne veux pas être incrédule. Et comme disait je me souviens plus, je pense que c'est dans les Évangiles, un homme qui a dit, viens au secours de mon incrédulité. Parce que souvent, ce que qu'est-ce que ma vie manifeste, c'est une incrédulité plutôt qu'une foi. Donc, de prendre le temps avec Dieu, c'est un moyen d'exprimer ma foi. C'est un moyen aussi de chercher la volonté de Dieu. Avant d'aller recruter, ou si je pourrais dire, ouais, c'est ça, recruter ses disciples, le Seigneur Jésus a pris du temps pour aller prier. Dans Luc 6, les versets 12 et 13, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Le fait que ces deux versets-là sont ensemble m'amène à penser, de dire Jésus, là, sur la montagne, pendant toute la nuit, où il a prié, je pense qu'il a cherché la face de Dieu pour savoir c'est quels les disciples que je vais aller chercher qui vont être avec moi pendant tout mon ministère. Il devait avoir un lien direct avec. Alors, je pense qu'il a cherché la face de Dieu pour la volonté. Et donc, dans tout ce qu'on fait, on doit s'arrêter et considérer, chercher la volonté de Dieu. Il y a des étapes dans notre vie parfois, des grandes étapes. Changement de travail, retour aux études, déménagement pour aller dans un autre endroit pour travailler. Des fois, on déménage la famille. Il y a des grandes étapes dans nos vies où on a besoin d'aller chercher la face de Dieu avant de dire, Seigneur, c'est-tu vraiment ta volonté ou c'est un désir, juste un désir de mon cœur? J'ai besoin de chercher la face de Dieu. Et comme Jésus a cherché la face de Dieu avant d'aller appeler ses disciples, nous aussi, on devrait prendre ce temps. Et je pense, vous ne l'avez pas dans vos notes, mais je l'ai ajouté dans mes notes manuscrites. Je réfléchissais à ça en m'en venant. Pourquoi un temps de silence et solitude? Parce qu'on a besoin de compter les bienfaits de Dieu. Compter les bienfaits de Dieu. On a besoin de s'arrêter, de reconnaître que Dieu nous fait part de ses bienfaits. Et une des choses hier qu'on discutait avec l'équipe de louange, c'est les bienfaits puis les choses que le Seigneur a permis qu'on accomplisse au cours de l'année. De considérer les bienfaits de Dieu envers nous. Des fois, on a besoin de s'arrêter pour ça parce qu'on voit juste le mauvais côté des choses. Et puis, lorsqu'on s'arrête, on prend le temps de faire un bilan. Hein, on fait ça de temps en temps. Une fois par année, deux fois par année, un bilan de qu'est-ce que le Seigneur a fait. Puis des fois, c'est même faire un bilan des plusieurs années. Hey, je regarde là, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans les 5-6 dernières années depuis que le Seigneur m'a appelé au ministère, puis que j'ai aux études, puis tout ça. Wow, le Seigneur m'a fait grandir, puis je suis reconnaissant à Dieu pour ça. J'ai la joie de servir le Seigneur maintenant auprès de son Église davantage, et puis je bénis Dieu pour ça. Le Seigneur nous a fait grandir comme couple, puis dans la famille, il nous a donné des enfants, 4 enfants, on est bénis avec ça, même si des fois j'en parle un peu comme, ouf, je suis béni, on est béni avec nos enfants. Et puis, je pensais, peux-tu en parler, Samuel? Oui, oui. Compter les bienfaits de Dieu. Quand on était dans un petit groupe ensemble, hein, on a démarré un petit groupe, vous vous souvenez là, des 40 jours là, en 2006, on a parti plusieurs petits groupes. Et puis on était dans un petit groupe avec Samuel et Lucie, et puis ils venaient d'adopter Anissa, et puis ils réappliquaient déjà pour pouvoir adopter une autre petite fille chinoise. Et puis, pendant des années, on priait, on attendait une réponse. Et puis le dossier, ah, ça avance tranquillement, ah, c'est stallé, c'est arrêté, ça avance plus. Et puis cette semaine, vous avez eu des nouvelles. Hein? 7 ans plus tard, le Seigneur leur a préparé une petite fille qu'ils vont aller chercher bientôt. Hein? On veut rendre gloire à Dieu. Quand Samuel m'a commencé à me dire au début de l'année, le dossier commençait à avancer, puis ça s'en vient, là, ça est en train de débloquer, là, je suis venu les larmes aux yeux. C'est des réponses aux prières, ça fait 7 ans qu'on prie pour ça. On veut louer Dieu pour ça. Hein? Dieu, des fois, c'est comme... Puis vous avez pleuré des bouts de temps, je suis sûr, ça a été long, puis ça va-tu finir, ça, cette attente-là? Mais là, le Seigneur répond à la prière, puis... Cette semaine, je voyais ça sur Facebook. Gloire à Dieu. On veut compter les bienfaits de Dieu dans nos vies, mais dans la vie de nos frères et sœurs aussi. On partage des fois des requêtes en petits groupes, puis c'est long. On prie le salut d'un enfant, des choses difficiles. Le Seigneur nous fait part de ses bienfaits. On a besoin de s'arrêter pour compter les bienfaits de Dieu. Un des versets que j'avais pour ça à l'appui, c'est le psaume 13, verset 6. Le psaume 13, verset 6. Dans le psaume 13, je vais vous le lire au complet, vous allez voir un peu le sentiment qu'il y a dans le psaume. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Afin que mon ennemi ne dise pas « je t'ai vaincu, je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Et donc, la situation n'est pas facile. Là. Il est chagrin dans son cœur, il a l'impression que Dieu lui cache sa face. « Je t'entends pas, je prie, mais je t'entends pas. » Le verset 6. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Qu'est-ce qu'il fait au milieu de la détresse? Il se rappelle des bienfaits de Dieu dans le passé et son cœur se réjouit. On a besoin de s'arrêter des fois lorsqu'on vit ces moments-là pour dire, « Seigneur, je veux m'arrêter. » Puis, hey, dans ces 30 dernières années avec toi, Seigneur, il y a eu des bienfaits. Il y a des moments où tu as répondu aux prières. Je veux me confier en toi. Je veux me réjouir de ça. Au milieu de la détresse, je veux me réjouir. Je veux que tu sois mon réconfort. Et au milieu de la détresse, je veux me tourner vers Dieu. Donc, temps de silence et solitude pour compter les bienfaits de Dieu. Les suggestions pour vivre les temps de silence et solitude. Premièrement, c'est d'avoir un objectif, d'avoir un temps de solitude, de silence et solitude chaque jour. Et c'est lorsque je parle, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être quelques minutes, quelques heures ou quelques jours, mais chaque jour, évidemment, ça va être un petit peu de temps. On a besoin de dépendre de Dieu pour chaque instant de notre vie. Seigneur, il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». On a besoin de lui et de démontrer notre foi en lui chaque jour. Et c'est une lutte, même pour moi, de dire je dois m'arrêter. Et Seigneur, c'est avec toi que je veux travailler. Sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de m'arrêter pour ça. J'ai besoin de me retirer dans un endroit tranquille. Puis c'est difficile parfois lorsqu'on est dans une, comme je l'ai déjà mentionné, dans la famille, les jeunes enfants, des fois. C'est où l'endroit tranquille? Mais j'ai besoin de trouver cet endroit-là, peu importe où ça va être. Des fois, ça va être, comme j'ai mentionné la semaine passée, dans l'auto, quand j'arrive au travail, un endroit, mon bureau, la porte fermée, quand j'arrive au bureau plus tôt le matin, des moments où, tôt le matin, avant que les activités de la famille commencent, j'ai besoin de me retirer dans un endroit tranquille. Et même lorsqu'on veut le faire quelques jours, parfois, ben peut-être, on peut avoir des amis qui ont un chalet, une roulotte quelque part où on peut même investir des sous pour prendre du temps. Quand je dis investir, je pense que c'est des fois, lorsqu'on le fait raisonnablement, c'est un bon investissement. C'est-à-dire, je vais prendre quelques dizaines de dollars pour louer un chalet dans le bois, puis je m'en vais là 48 heures, 2 jours, 3 jours. On a des frères qui nous l'ont partagé à l'automne dernier. Notre frère Luc Pellerin, il avait été au camp Patmos, prendre un chalet là, une semaine, consacrer du temps avec Dieu, à l'écart. Puis le Seigneur nous parle à travers ça. Donc, des fois, on a besoin de se retirer complètement, d'aller être plus loin, mais prendre un temps significatif avec Dieu. Alors, mais pour ça, il faut quand même planifier puis organiser notre temps de silence et solitude pour pas qu'on arrive, puis on a 2 jours devant nous, ou des fois quelques heures, on a dit 2, 3, 4 heures devant nous, puis on dit, on le veut consacrer ce temps-là avec Dieu, pour pas que nos pensées aillent d'un côté puis de l'autre, on veut structurer ça. Et donc, moi, ce que je suggère, c'est de diviser notre temps. Par exemple, quand j'étais au séminaire, notre prof nous a donné un truc, prendre un temps, mettons, 4 heures. Puis c'était un cours où on voyait ces différentes disciplines spirituelles-là. Le jeudi après-midi, il dit, vous allez être à l'écart, vous allez aller prendre 4 heures avec le Seigneur, vous allez écrire un rapport, puis on va partager ça vendredi matin. OK. Comment on fait ça? 4 heures avec Dieu. Hey, j'ai de la misère à prendre 15 minutes, moi. Non, mais des fois, c'est ça qu'on vit. Hein? J'ai de la misère à m'arrêter 15 minutes, prendre du temps avec Dieu. Comment je vais passer 4 heures avec Dieu? J'ai jamais fait ça de ma vie. Bien, on divise le temps. On peut commencer avec 15 minutes où on écoute des chants de louange. C'est des chants que vous aimez. Après ça, vous prenez le temps de réfléchir à ces chants de louange-là. Pendant 15 minutes, vous faites juste laisser ces chants-là vous parler. Quand ils sont riches avec la parole de Dieu, ces chants-là nous parlent aussi. Puis j'avais commencé mon temps de... souvent, je commence comme ça, mon temps de silence avec le Seigneur. Je mets juste une chanson. Puis lorsque je viens le dimanche matin dans l'auto, on met les chansons qui me parlent de l'Évangile. Et puis ce matin, j'aime écouter... je fais des parenthèses, là, OK? Mais... on était à une conférence au mois d'avril, ça s'appelle Gospel Coalition, la coalition pour l'Évangile. Et puis, il y a un groupe, un couple qui s'appelle Keith et Christine Getty. Si vous comprenez bien l'anglais, puis vous aimez les chants en anglais, puis la musique quand même douce et un peu rythmée parfois, là, tu sais, c'est pas du gros rock, là. Je pense que ça convient à tout le monde, là. La Coalition pour l'Évangile, c'est un regroupement où plusieurs hommes de Dieu se sont mis ensemble pour mettre l'accent sur la centralité de l'Évangile dans le ministère de l'Église locale. Et puis, c'est juste pour influencer les pasteurs, les hommes de Dieu, à garder l'Évangile au centre. Mais Keith et Christine Getty ont écrit, entre autres, le chant qu'on chante ici, « En Jésus seul ». Vous vous souvenez, « En Jésus seul est mon espoir, lui, ma lumière, ma force, mon chant ». On chante ça. Et puis, ce matin, il y a un chant qui s'appelle « Par la foi ». Et je m'en venais, puis avec tout ce que il y avait, je vous ai parlé, là, la semaine était un peu chargée, avec la réunion d'hier, tout ça. Et par la foi, on va se tenir comme des enfants de la promesse. On va fixer nos yeux sur lui qui est la récompense pour nos âmes. Et puis, en attendant, là, pendant qu'on est là, je traduis la mesure parce que c'est un chant en anglais, mais en attendant, on va travailler pour lui, on va mettre des efforts pour lui, on va marcher par la foi et non par la vue. Et souvent, je réfléchissais à ça en m'en venant, combien j'ai marché par la vue? Parce qu'on regarde les circonstances et on n'a pas l'impression que Dieu est à l'œuvre. Mais non, je veux me confier dans tes promesses et je veux marcher non par la vue, mais par la foi. Et je me souviens qu'un jour, je vais être devant toi, puis je vais fixer mes yeux sur toi, puis ça va être toi ma récompense. Et les larmes me viennent à toutes les fois que j'entends ce chant-là, puis que je prends le temps d'être touché. Donc, les louanges à Dieu touchent nos cœurs et nous préparent parfois juste à disposer nos cœurs, à prendre un temps avec Dieu. Donc, je peux prendre un temps, 15 minutes, pour écouter quelques chants, me laisser toucher par sa parole, je peux choisir, après ça, prendre un autre 15, 20 minutes, une demi-heure, dire, je vais lire quelques chapitres des psaumes, quelques chapitres, ou lire un épître, je vais lire l'épître aux Éphésiens, je prends une demi-heure, je mets à part, je lis l'épître aux Éphésiens. Ensuite de ça, je vais prier ce qui est écrit dans l'épître aux Éphésiens, comme je vous ai expliqué un petit peu. Je vais prendre 20, 30 minutes, puis juste louer Dieu. Tu sais, louer Dieu, répondre à ce que les Écritures disent, c'est quoi mes requêtes pour Dieu suite à ma lecture de ce psaume-là? Et puis après ça, je vais être reconnaissant envers Dieu pour ce temps-là avec lui. Là, on 15, 30, 30, on est rendu à 1h15. Et puis, Des fois, on va prendre un temps pour lire dans un livre aussi, peut-être se nourrir. Je vous ai présenté des livres, des fois, les prières des puritains, des biographies d'hommes de Dieu. Prends un temps pour lire. Écrire dans un journal qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Prendre le temps de compter les bienfaits de Dieu. Là, prenez tout ça, là. Puis, un petit 15, 20, 30 minutes pour chaque chose. 4 heures, ça peut passer très vite. Lorsqu'on prend le temps de s'arrêter, puis juste réfléchir, puis remercier Dieu, puis on structure notre temps. On consacre du temps à certaines choses, à louer Dieu, à prier, à lire sa parole, à lire des livres qui nous enrichissent aussi. Donc, structurons notre temps, puis organisons notre temps lorsqu'on le planifie. Ça peut être, là, j'ai parlé de 4 heures parce que je prends ce temps-là avec le Seigneur, mais ça peut être 1 heure des fois, puis juste structurer ce temps-là pour pas que nos pensées vagabondent, mais qu'on puisse être avec le Seigneur. Échanger des fois pour pouvoir réussir à prendre ce temps, on a besoin, surtout dans les familles, là, échanger des responsabilités quotidiennes. Les époux avec des jeunes enfants, là, des fois la vie va tellement rapidement, et puis on fait ça de temps en temps. Je dis, Cynthia, si tu veux prendre, je le fais pas assez souvent pour elle, puis je devrais le faire plus souvent. Cynthia, si tu veux prendre 1 heure là, ce matin, je suis en congé, mettons, le samedi ou le lundi parfois, je vais m'occuper des enfants, tu peux aller à l'écart, tu peux prendre un temps avec Dieu, puis tu reviendras après, puis sinon, des fois, c'est pas facile de trouver le temps. Mais on peut s'aider dans le couple, dans la famille. Puis, messieurs, si des fois votre épouse, elle est débordée avec toutes les tâches, puis des fois, on est occupé dans le ministère aussi, c'est bon, des fois, juste de dire, « Hey, prends une pause, va prendre 1 heure avec le Seigneur, puis je m'occupe du reste. » Puis je peux même partir avec les enfants au parc, puis, tu sais, puis, et vice-versa, OK? Mais si on a de la difficulté à prendre du temps avec le Seigneur, des fois, c'est peut-être de s'encourager à le faire dans la vie de couple, là. OK? Ça va. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Sur cette discipline-là. J'imagine que c'est clair quand même, mais des questions? Oui, Mme Di Palma. Oui, c'est ça. Louer Dieu, l'adorer pour qui il est, s'arrêter, contempler ses merveilles. Oui, fait que c'est important de s'arrêter pour ça, oui. On va poursuivre avec le jeûne maintenant. Comme je disais tout à l'heure, le jeûne, c'est probablement une des disciplines les moins enseignées, les moins pratiquées dans l'Église aujourd'hui. Souvent, c'est associé à des moments dans l'histoire de l'Église, et puis on ne comprend pas trop comment ça fonctionne, tout ça, mais je pense que c'est important que l'Église comprenne exactement ce que c'est pour qu'on puisse le vivre, comprendre puis vivre. Pour comprendre puis le vivre, on a besoin de définir exactement qu'est-ce que le jeûne. Et on va regarder ensemble dans les Écritures comment le jeûne a été pratiqué, et on va essayer de le définir ensemble. C'est Martin Lloyd-Jones qui définit le jeûne comme étant l'abstinence de tout ce qui est légitime en soi dans un but spirituel spécifique. Par exemple, c'est pas obligé d'être on le voit souvent dans les Écritures comme l'abstinence de nourriture, mais on peut s'abstenir de d'autres choses. Surtout, comme je disais tout à l'heure, avec les divertissements, on peut s'abstenir de sport, de télévision, Internet et d'autres activités qui peuvent occuper notre temps. Ça nous est déjà arrivé en famille de dire, cette semaine, 0 appareil électronique qui fonctionne dans la maison parce qu'on veut prendre du temps avec Dieu. Un jeûne de l'électronique, un jeûne de la télévision, l'Internet et tout ça. On veut consacrer du temps avec Dieu. Puis étrangement, ben, on trouve du temps souvent. Juste dire, je vais faire un jeûne de l'électronique. Alors, et puis, on peut consacrer du temps avec Dieu. Donc, ça peut être un jeûne de nourriture, mais ça peut être aussi un jeûne de d'autres éléments. On peut définir le jeûne de façon plus précise comme étant aussi étant l'abstinence volontaire de nourriture physique, aliments et boissons dans un but spirituel. L'important ici, c'est que le jeûne nous permet de poursuivre des buts spirituels. OK, je ne suis pas en train de dire, je vais jeûner parce que je veux maigrir, là, je veux perdre 5 livres, je vais prendre le temps, je vais jeûner là, une coupe de repas, là, une coupe de jours, puis comme ça, je vais maigrir. Non, pas ça le but. Là. Le but, c'est de prendre du temps avec Dieu. Ça permet d'exprimer notre totale dépendance envers lui, puis qu'on s'attend à lui. Lorsqu'on est en train de s'abstenir de nourriture, une des choses qu'on est en train d'exprimer à Dieu, c'est que j'ai besoin de nourriture pour vivre, mais la nourriture spirituelle, j'en ai encore plus besoin, c'est toi qui me le dis. Je suis prêt à mettre ça de côté parce que je crois que c'est important de prendre du temps, parce que c'est toi ma nourriture. C'est toi, Seigneur, ma nourriture, puis je veux prendre du temps avec toi, puis être prêt à renoncer même à la nourriture physique pour prendre un temps spécial dans la prière. Il n'y a pas pour but, dans le fond, le but du jeûne, ce n'est pas d'être centré sur nous-mêmes. Parce que des fois, ça peut être un piège, même Jésus va l'adresser, d'être centré sur nous, puis comme de dire, « Hey, regarde, Seigneur, jeûne, là. Tu devrais répondre. » Pas ça le but. Le but, c'est de chercher la face de Dieu encore, chercher la gloire de Dieu. Ce n'est pas chercher ma propre volonté, mais chercher la volonté de Dieu, premièrement. Et souvent, on peut voir comme le jeûne comme quelque chose de religieux pour mériter la faveur de Dieu. C'est pas ça qu'on. C'est loin d'être ça. C'est plutôt pour chercher la gloire de Dieu. Je veux me consacrer, puis mettre du temps à part, mettre toutes des choses de côté pour vraiment chercher la face de Dieu. Dieu est en notre faveur. Pas à cause de notre jeûne, pas à cause de notre vie de prière, pas à cause qu'on est des bons lecteurs de la parole, parce que Jésus-Christ a tout accompli pour nous. Ça, je pense que je l'ai fait, ça a été assez clair dans l'Épître aux Galates lorsque j'ai enseigné cet été. Christ a tout accompli. Mais maintenant que Jésus a tout accompli, c'est quoi les bonnes raisons pour jeûner? Et on voit dans plusieurs exemples de jeûne dans les Écritures. Je vais on va passer à travers ces exemples-là. Dans les Écritures, on retrouve le jeûne de nourriture seulement. Mais il y a plusieurs types de jeûne. Il y a le jeûne qui est régulier. On voit dans le jeûne régulier l'abstention de toute nourriture, mais pas nécessairement de l'eau ou de jus de fruits. Dans un sens, dans Luc 4, on voit Jésus qui était 40 jours, pendant 40 jours et 40 nuits, a jeûné. Le corps humain ne peut pas fonctionner sans eau pendant, je pense, 3 jours. Et je pense que si Jésus a réussi à tenir 40 jours sans eau, il y avait un miracle là, humainement. Là. Mais si, sinon, il a fallu qu'il boive de l'eau. Fait que dans un sens, il faut faire attention lorsqu'on entreprend un jeûne, si on le fait sur plusieurs jours, il faut être vigilant aussi sur notre santé. OK? Et on peut boire de l'eau, puis des fois, juste si on n'est pas habitué là, à s'abstenir, là, puis faire un jeûne, même des fois, je vais parler un peu de jeûne pendant 24 heures, même ça, ça peut être difficile. Là. Pour quelqu'un qui ne le fait pas souvent, bien, avoir du jus de fruits proche pour juste se soutenir un petit peu, ça peut aider. Donc, on faut faire attention parce que pour des raisons de santé, la longueur du jeûne, ça peut être, faut être prudent. Là. Ça peut être pas nécessairement bon pour notre santé. Donc, mais pour ceux qui voudraient pratiquer le jeûne de façon régulière, pour commencer, c'est suggéré de commencer avec des périodes de 24 heures. Puis le mieux pour ça, puis je l'ai déjà expérimenté, je trouve personnellement, à moins que d'autres peut-être pourront partager s'ils ont déjà vécu ça, le mieux c'est de faire un jeûne qui est entre les deux soirs. Okay? Ça veut dire que je vais passer le déjeuner et le dîner le lendemain. 24 heures, ça veut dire que je vais souper. Je vais aller passer le déjeuner et le dîner, puis je vais souper le lendemain. Donc, je fais un jeûne de 24 heures. Ça peut être fait si on ne jeûne pas régulièrement, ça peut nous aider juste comme à s'habituer à faire un jeûne. Ça commence par là. Je pense, j'ai déjà fait l'inverse aussi. Déjeuner, puis essayer de faire la journée. On dirait que ton corps, il désire la nourriture vu que tu as mangé le matin. Et puis de faire le soir jusqu'au lendemain, on dirait, en tout cas pour moi, ça a été plus facile. Donc, c'est souvent suggéré de faire ça comme ça. Ça, c'est si vous voulez jeûner. D'autres ont déjà jeûné puis pourraient nous partager un peu comment vous l'avez fait. Je sais que c'est pas populaire, hein? Je sais qu'on fait pas ça beaucoup, mais si jamais vous l'avez déjà fait, peut-être vous pouvez partager comment vous l'avez fait. Oui. 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 Oui.
Quand tu es dans l'angoisse, la meilleure affaire, c'est de tourner dans la Mm-hmm. Ça se fait assez naturellement.
Oui, oui. C'est ça. Oui, oui, oui. Oui, oui. 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 C'est ça. Mm-hmm. C'est ça. Donc, on va le voir. Là, il y a des moments, oui, justement, où ça devient naturel de jeûner parce qu'il y a de l'angoisse. On vit des choses, on a un nœud dans l'estomac, il n'y a rien qui rentre. Bien, c'est peut-être le moment d'aller jeûner puis d'aller dans la prière à ce moment-là. Fait que des fois, naturellement, ça peut se présenter comme quelque chose qui est plus facile. Mais donc, c'est juste, des fois, on a besoin d'une grosse décision à prendre. On est devant une situation, un défi. Je veux chercher la face de Dieu. Je veux dire, Seigneur, je veux dépendre entièrement de toi. Et puis, pour commencer, des fois, si vous le faites de temps en temps, consacrer du temps, une des façons de commencer, c'est comme celle que je vous propose. L'autre qu'on voit dans les Écritures, c'est un jeûne partiel. Ça veut dire, c'est une restriction de certains aliments, mais pas de toute nourriture. Entre autres, Daniel. Okay, Daniel, dans Daniel 1, va s'abstenir des mets du roi, puis il va juste manger des légumes pendant un certain temps. C'était restreint de certains aliments pour ne pas se souiller, entre autres, là, dans ce contexte-là. Et il y a le jeûne absolu, qui est l'abstention de toute nourriture et breuvage. Ça peut se faire, je pense, un 24 heures, mais comme je disais, pas trop à long terme. Donc, on voit que le jeûne peut être pratiqué en privé, mais il peut aussi être pratiqué en assemblée. Il y avait même un jeûne national, des fois, qui était décrété, c'est-à-dire on va prier, jeûner. Puis il y a des églises, parfois, qui vont dire, on va prendre mercredi, si vous avez à cœur, prendre un temps dans la prière et le jeûne pour chercher la face de Dieu pour son église. Et donc, on va prendre le temps de pas juste le faire en privé, mais le faire en église aussi. La durée du jeûne aussi peut varier, comme je disais. La Bible n'a pas de règles. Il n'y a pas de règles sur la durée. Et puis, il peut être fait sur une certaine fréquence, que ce soit régulier, sur un calendrier précis. Le peuple d'Israël jeûnait chaque année durant le jour de l'expiation dans Lévitique 16, c'est ce qu'on voit. Donc, régulier, chaque année, il y avait un jeûne qui était décrété pendant le jour de l'expiation. Et ça peut être occasionnel quand on voit que c'est nécessaire pour notre relation avec Dieu. Donc, le jeûne le plus souvent pratiqué aujourd'hui chez les chrétiens qu'on voit, c'est un jeûne régulier dans un sens qui va être planifié en privé puis occasionnel de environ 24 heures. Donc, ça veut dire le jeûne régulier, c'est plutôt abstinence de nourriture, de ne pas manger, mais boire quand même pendant 24 heures, souvent on le voit. Maintenant, pourquoi on veut pratiquer le jeûne? Je vais terminer avec ça, puis vous pourrez lire exactement, je vais conclure ensuite. Et donc, pourquoi pratiquer le jeûne? Premièrement, pour renforcer. J'ai écrit renforcer, mais je ne suis pas certain. Ça peut être bon. OK, c'est bon. Merci, Camille. Camille, notre référence linguistique. notre prière à Dieu. Donc, vive, tu sais, une prière fervente. Et je veux vivre ça. Jacques nous encourage à vivre une prière fervente. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et donc, je veux mettre ça en œuvre. Je prie avec ferveur, je vais prendre un temps pour jeûner. Néhémie l'a fait. Et puis, dans un contexte précis, là, c'est souvent, ça se présente dans un contexte. Néhémie, dans Néhémie 1, il dit, « Lorsque j'entendis ces choses, là, il avait entendu les nouvelles de ce qui se passait à Jérusalem, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. » Il voulait prier à Dieu parce qu'il se passait quelque chose, qu'il voyait que la gloire de Dieu avait besoin d'être manifestée. Il a pris le temps de s'arrêter. Donc, pour renforcer notre prière à Dieu, pour chercher la direction de Dieu aussi, chercher sa volonté, je l'ai mentionné, dans des situations comme plus des défis devant nous, des changements de vie, on veut chercher la face de Dieu. Pour exprimer notre désolation face au péché ou à un événement qui s'est passé. Parfois, je pense que des fois, on a besoin pour... On peut... La repentance, ça se vit avec une certaine profondeur. Hein? Lorsqu'on a péché, on peut vivre la repentance. « Ah, Seigneur, je te demande pardon, là, j'ai manqué encore. Mais aide-moi, là, je ne veux plus pécher. » Fait que des fois, ça peut venir nous chercher un peu plus que ça. On peut être vraiment attristé par notre péché ou par le péché dans la vie de quelqu'un d'autre. Ça m'est déjà arrivé de jeûner et prier pour un couple qui était en train de... de se séparer. Je vois la situation difficile que ce couple-là est en train de vivre. Je dis, Seigneur, puis là, je voyais le cœur dur de l'homme dans la situation. Puis, Seigneur, viens le briser. Je veux le voir se réconcilier avec son épouse, manifester ta gloire à travers ça. Fait que, j'avais pris le temps de jeûner pour ça. Devant un péché ou une situation difficile, prendre le temps de se mettre à genoux dans nos vies ou dans la vie de quelqu'un d'autre même. Pour se repentir et se tourner vers Dieu, ça je pense que je viens de le mentionner, dans Joël 2, le Seigneur dit, « Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Fait qu'on est en train d'exprimer vraiment une profonde repentance. Seigneur, je ne veux pas que ce soit une repentance facile à cause que j'ai péché, oh, ça m'arrive souvent, puis ça va recommencer, mais en tout cas, je te demande pardon pour cette fois-là. Non, Seigneur, je veux venir, tu viennes me changer. Là. Je veux que tu viennes me transformer. Je ne veux plus toucher à ce péché-là. Je ne veux plus embarquer dans ce péché-là. Je veux vivre pour toi. Puis vraiment, on vit dans nos sentiments, pour la gloire de Dieu, une repentance profonde. Et donc, même l'Éternel nous appelle. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Peut-être que ça fait des fois un certain temps, on s'est refroidi, on a besoin de revenir à Dieu. Prendre un temps pour jeûner puis prier. Donc, pour s'humilier devant Dieu, exprimer notre amour pour Dieu aussi, c'est des raisons pour lesquelles on peut jeûner. Et puis, l'exemple de ça, c'est la prophétesse Anne, dans le livre de Luc, était avancée en âge, puis elle était restée veuve, puis elle ne quittait pas le temple. Puis elle servait Dieu nuit et jour dans la jeûne et la prière. C'est une femme qui était veuve, qui a décidé de se consacrer au service de Dieu dans le temple, elle vivait le jeûne et la prière régulièrement. Donc, elle avait un amour pour Dieu qui la poussait à prendre du temps dans le jeûne et la prière. Maintenant, comment on pratique le jeûne? Jésus nous donne des instructions, entre autres dans Matthieu 6. Il dit, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui rendent le visage, le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et le point, c'est pas pour attirer l'attention sur toi que tu jeûnes. C'est pour que Dieu soit glorifié. Fait que, un peu comme l'offrande, il dit que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche donne. Ça devrait être le contraire. quand tu jeûnes, montre pas ton air tout piteux, puis aujourd'hui j'ai jeûné, mon ami. J'ai prié pour la repentance d'un frère. Non. Non, c'est pour la gloire de Dieu. Les gens autour de toi n'ont pas besoin de tout savoir, puis avec des trompettes, dire hey, c'est un homme de prière, waouh, il jeûne. C'est pour la gloire de Dieu qu'on le fait. Donc, soyons sur nos gardes pour ça, parce que ça peut être tentant. Ça peut être tentant parce que c'est vraiment une action qui est un peu contre nature, si je peux dire, là, de ne pas manger. C'est comme dire, j'aime le Seigneur, moi. Mais on ne veut pas trouver notre gloire là-dedans. Donc, le but du jeûne, ce n'est pas notre gloire, mais c'est la gloire de Dieu. Jésus leur dit, dans Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. » Ma vraie nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et donc, parfois, on peut l'exprimer par le jeûne, dire, « Seigneur, c'est ta volonté que je cherche. » Je vais m'abstenir de nourriture parce que c'est toi ma nourriture. Juste pour exprimer. C'est une expression à Dieu pour sa gloire. En conclusion, Dieu est bon. Il y a des bénédictions en réserve pour chacun de nous, mais pour expérimenter davantage les bénédictions spirituelles que Dieu a en réserve pour nous, on a besoin de consacrer du temps pour s'approcher de lui dans le silence, la solitude, parfois même jusqu'à jeûner. On veut être totalement dépendant de lui. On l'a lu tout à l'heure dans un autre verset, mais le psaume 34:8 dit que si on veut sentir combien notre Dieu est bon, on a besoin de trouver en lui notre refuge. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Je pense que ça dit « Heureux celui qui trouve en lui son refuge » ou quelque chose comme ça, mais on a besoin de trouver en lui notre refuge si on veut goûter sa bonté. Alors, on a besoin, comme frères et sœurs, de prendre du temps avec Dieu, s'arrêter, reconnaître qu'il est Dieu, afin qu'il puisse régner dans nos vies, qu'on puisse accomplir sa volonté. On va se courber ensemble. Seigneur notre Dieu, lorsque je regarde cette leçon et tout ce qu'on a vu ensemble, c'est tellement difficile de souvent de vivre cette intimité avec toi de façon aussi profonde. On est tellement dérangé, Seigneur, par tout ce qui se passe. On a de la pression sur nous pour être productif. On est tellement influencé par les choses autour de nous qui nous amènent loin de prendre du temps avec toi. On a tendance à trouver notre repos non pas en toi, mais dans ce que le monde nous propose. Et Seigneur, ma prière, c'est que à travers cette leçon, tu puisses me transformer moi-même, Seigneur, afin que je puisse vraiment me confier en toi, apprendre à prendre des temps un peu plus longs avec toi parfois pour chercher ta face et ta volonté. Mais qu'on puisse le faire aussi ensemble, Seigneur, en Église. Que chacun des frères et sœurs qui font partie de cette Église, Seigneur, puisse être prêt à développer cette intimité avec toi. Et une intimité profonde qui va les pousser à te glorifier individuellement et à travers les ministères de ton Église. Seigneur, notre but dans tout ça, c'est ta gloire. Notre sainteté, mais ta gloire. Et que ton nom puisse être glorifié par nos vies. Bénis le temps qu'on va prendre ensemble dans la louange et dans la prédication de ta parole. Parle à nos cœurs encore une fois ce matin et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.